Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, grâce à Mzati à la présentation.
À la une de l'actualité ce soir, 20 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité après avoir purgé sa peine. Tel est le réquisitoire du ministère public contre l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo-Mapon dans le procès de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce réquisitoire a été prononcé à l'audience publique de ce mercredi devant la Cour constitutionnelle à l'absence du prévenu Matata et de ses co-accusés dans cette affaire. Jeff Ngoy nous en dit plus dans quelques instants. Après environ 3 semaines de discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 à Doha au Qatar, aucune avancée significative n'a été obtenue. Par conséquent, la délégation rebelle, dirigée par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimwa, a quitté Doha hier pour retourner à Goma. Décès ce mardi aux États-Unis de l'écrivain et philosophe Yves Moudimbe-Yoka. Nous en parlons avec Christian Kunda Mutoki, professeur à la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi. Selon lui, le professeur Yves Moudimbe a énormément contribué à la littérature et à la philosophie. Il est notre invité. Bonsoir à toutes et à tous. Justice pour commencer. Servitude pénale contre tous les prévenus, soit 20 ans de travaux forcés contre l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo-Mapon et son arrestation immédiate, 10 ans d'inéligibilité après avoir purgé sa peine, 5 ans d'inéligibilité pour Deogracias Mutombo et expulsion définitive de Christo Grobler du territoire national. C'est un réquisitoire prononcé à l'audience publique de ce mercredi par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle. Le procès Bukangalonzo s'est poursuivi sans contradicteur devant la Cour constitutionnelle. La Cour les a jugés par défaut. Après avoir instruit le fond de la cause avec la déposition des inspecteurs des finances comme renseignants ayant enquêté sur la débâcle du projet, la cause est prise en délibéré et le verdict de la Cour est attendu le 14 mai prochain. Compte rendu de Jeff Ngoy.
En réaction à la démarche du prévenu Matata Ponyo, le président de la Cour fait savoir que la Constitution consacre la séparation des pouvoirs. Il n'y a aucune disposition légale d'injonction de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle. Aucun acte officiel de l'Assemblée n'est fait obstacle à la procédure judiciaire en cours. Tranche des données comme l'État. La déposition des inspecteurs des finances se focalise sur le tri des fichiers comportant les décaissements effectués en faveur du parc. 83% des fonds décaissés étaient envoyés à la société Africom et autres sans appel d'offres. Qui était Africom? S'interroge-t-il. Il s'agit d'une société holding, donc ne gérant que des filiales, sans activité propre, d'après l'IGF, qui parle d'autres sociétés fictives ayant perçu de grosses sommes d'argent pour ne rien faire. Où est la responsabilité de l'ancien premier ministre parce qu'il ne gérait pas les fonds, interroge le président de la Cour aux inspecteurs. Tout était piloté par le premier ministre. Toutes les dépenses étaient effectuées avec son autorisation, répond l'IGF. Et le procureur enfonce que le projet Bukangalonzo, sa conception et sa mise en exécution sont l'œuvre exclusive de Matata Ponyo.
À noter que tous les 3 prévenus régulièrement atteints par l'invitation, selon le procureur général près la Cour, se sont absentés à cette audience du procès Bukangalonzo. Le député national Augustin Matata Ponyo avait déjà écrit au président de la Cour pour lui signifier son refus de comparaître aux audiences, s'appuyant sur une option levée par l'Assemblée nationale de régulariser la procédure. Christo Grobler, le Sud-Africain responsable de la société Africom et de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, se sont excusés respectivement pour un malaise et pour des soins à l'étranger. Nous l'avons dit dans les titres, coup d'arrêt dans les discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 à Doha au Qatar. Après près de 3 semaines d'échanges plutôt infructueux, ponctués par quelques séances directes entre les 2 délégations, aucune avancée significative n'a été enregistrée. La délégation du mouvement rebelle, conduite par son coordonnateur adjoint Bertrand Bissimwa, a quitté Doha hier pour regagner la ville de Goma, où l'AFC M23 a établi son quartier général depuis plusieurs semaines. Selon des sources proches des négociations, les discussions ont achoppé sur de profondes divergences, notamment autour du projet du communiqué conjoint censé poser les bases d'un dialogue constructif entre les 2 camps. Des détails avec Martial Papimukeba.
Selon nos sources, les représentants du gouvernement congolais auraient exigé que le communiqué de Doha mentionne explicitement qu'il faisait suite à la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Kagame. L'AFC M23 aurait rejeté cette exigence, estimant que les différends entre Kinshasa et Kigali ne les concernaient pas, leur mouvement et à ses propres revendications. Un autre point de désaccord, les émissaires du gouvernement auraient voulu que les 2 parties s'engagent à sensibiliser les groupes armés à déposer les armes. AFC M23 s'y serait opposé, accusa Kinshasa de collaborer avec plusieurs de ces mêmes groupes. La rébellion aurait aussi exigé les retraits des FRDC et Wazalendo de Walikale, réoccupés récemment par ses forces après les retraits des rebelles, lesquels considèrent cela comme un geste de bonne foi. Mais le principal point de blocage resterait le préalable posé par les rebelles transmis à la médiation qatari avant les négociations. L'AFC M23 accuse les gouvernements de les avoir ignorés, y voyant un signe de mauvaise foi. En fait, la rébellion conditionnerait maintenant toute reprise des pourparlers, notamment à la désignation par Kinshasa, je cite, des délégués capables de prendre des décisions claires et non des simples experts au mandat flou. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, la situation est de nouveau inquiétante. C'est mercredi sur l'axe routier Kibati-Kibua, dans les groupements Luberike. C'est dans le territoire de Walikale. Selon les sources civiles locales, cette zone a été le théâtre des affrontements dans la soirée de mardi, opposant les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo. Pour ces sources, ces nouveaux combats interviennent après plusieurs jours de trêve observés sur cet axe, où les rebelles étaient censés retirer leurs troupes il y a plusieurs semaines déjà. Des explications avec Ronéline Tibonera.
Ces affrontements ont eu lieu dans les villages Mikumbi et Miba à environ 6 km de Kibati en groupement Luberike, indiquent certaines sources de la société civile locale. Pour elle, le combattant Wazalendo aurait réagi à une tentative d'avancer des rebelles du M23 vers le centre de Kibua à environ 30 km de Kibati en direction du chef-lieu du territoire de Walikale. Si la calmie s'observait ce mercredi dans la zone, nos sources estiment que la situation y est toujours volatile. Mikumbi, Miba, voire même Kachéberi, à la limite avec les territoires voisins des Massissi, ont été vidés d'une partie de leur population à la suite des détonations d'armes lourdes et légères pendant ces combats. Nos sources redoutent un plan des rebelles du M23 de vouloir reconquérir Walikale, où ils ont retiré leurs troupes depuis mi-mars dernier en exécution de leur décision de repositionnement. Les plans qui se justifieraient selon nos sources par un renforcement en armes et hommes des troupes des positions AFC M23 dans cette partie du groupement de Luberike.
Autre nouvelle, le professeur Yves Moudi Mbeyoka est mort ce mardi aux États-Unis. Il a enseigné dans de nombreuses universités du monde et du pays, dont l'université de Lubumbashi. Né en 1941 à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, Yves Moudimbe est auteur des romans, des recueils de poésie et des mémoires. À son actif, on retient Le Bel Immonde, L'Invention de l'Afrique ou Entre les Eaux. L'un de ses étudiants, le professeur émérite Witt Mulongo, estime que la RDC et le monde ont perdu un grand écrivain et philosophe dont les œuvres continueront à nourrir les esprits. Le professeur Witt Mulongo, joint par Jean Gando.
C'est un personnage littéraire et même philosophique de très haut rang dans notre pays. Je crois que la République démocratique du Congo et principalement le monde culturel et spécifiquement littéraire retiendra de Yves Moudimbe que ça a été l'un des premiers à instaurer ce que nous avons appelé la rupture dans l'écriture littéraire congolaise avec son célèbre roman Entre les eaux qui sera suivi plus tard par L'écart et tant d'autres. C'est très notable parce que son écriture va instituer l'équivalent de ce que nous appellerons en littérature l'écriture du nouveau roman. Peut-être faut-il que je signale aussi que les trois dernières années ici, il a fait un don de sa bibliothèque contenant plus d'un millier de livres à l'université de Lubumbashi, qui en est très fier aujourd'hui. C'est un geste notable qui ne s'est jamais produit de la part de nos dévanciers. Yoka nous quitte, mais il nous a pas quitté parce que son œuvre va continuer à nous parler.
Et puis, l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli, membre du consortium Le Congo n'est pas à vendre, a organisé ce mardi ici à Kinshasa un forum sur la corruption électorale en RDC. De nombreux participants à cette rencontre se sont accordés sur la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, une thèse soutenue par le député honoraire Juvenal Munobo, invité à ses assises, nous dit Blaise Dongala Mayanda.
Les acteurs de la société civile et de nombreux autres participants à ces forums sont d'avis que la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante va épargner cette institution de l'interférence politique et améliorer les élections à venir. Dans son rapport, l'Institut de recherche Ebouteli préconise également une rotation au poste de président de la centrale électorale entre confessions religieuses suivant l'ordre ci-après, Église catholique, Église protestante, Église kimbanguiste, l'Islam et la communauté des églises des rêves. réveille. Cette organisation citoyenne relève que la crise de légitimité souvent évoquée en RDC résulte en partie du fait que la corruption électorale est également pratiquée à grande échelle. Une année et demie après les dernières élections présidentielles et législatives, ces rapports examinent les pratiques de corruption centralisée et décentralisée qui accentuent la crise de légitimité et les déficits de redevabilité politique au niveau non seulement du pouvoir central, mais également au niveau des provinces. Pour sa part, le député honoraire Juvenal Munobo et candidat malheureux à la dernière législature estime que sa réforme, ça ne sert à rien d'aller aux élections en 2028.
Blaise Ndongala Mayanda. Par ailleurs, la société civile du territoire de Lubero Nord qui vous alerte sur la montée des cas de malnutrition chez les enfants et femmes d'Injiapanda, une localité de la zone de santé de Biéna. Selon cette structure citoyenne, 10 nouveaux cas sont signalés par mois contre 4 il y a quelques mois. Une augmentation qui est liée, selon elle, au déplacement de la population à cause des affrontements impliquant les FRDC, les rebelles du M23 et les ADF. Mervin Mouindo Kavou, le nutritionniste de cette zone de santé, plaide pour l'intervention urgente des humanitaires dans cet extrait sélectionné par André Kitenge.
Auparavant, on trouvait à peine 4 par mois, mais ces derniers temps, nous sommes même vers 10 cas par mois. Il y a des problèmes liés à la nutrition, des problèmes liés au mouvement de déplacement de la population qui vivait dans des aires de santé voisines, mais qui n'ont plus accès à leur champ. D'abord, que les parents puissent chaque fois amener les enfants à la CPS, afin que nous puissions dépister ces cas cachés dans la communauté qui souffre la malnutrition. Il y a ces personnes visiteurs dans l'aire de santé qui ne savent où trouver à manger, alors préciser comment nourrir les enfants, c'est toutefois difficile. Nous appelons aux humanitaires de venir aux rescousses de ces personnes démunies des moyens afin de pallier à ce fléau de la malnutrition qui bat record dans l'ère de santé. Nous recommandons aux écoles qui organisent l'option nutrition de nous aider à chaque fois à déployer les élèves pour la recherche active. Comme ça, ces cas seront chaque fois orientés vers la structure compétente et puis nous ferons sélection des cas qui seront valides et qui ne seront pas valides.
On enchaîne avec la province de la Tchopo, où le programme national de lutte contre le VIH-Sida fait face à la rupture des tests de confirmation de ce virus. Ces intrants font défaut depuis quelques semaines, regrette le médecin coordonnateur provincial du PNLS. Pendant ce temps, des centaines de personnes qui étaient soumises au premier test attendent toujours la confirmation ou non des résultats de leurs examens. Le docteur Aloïs Olinda, coordonnateur provincial du PNLS, redoute que cette situation ne favorise la propagation de cette pandémie. Il est dit à Jacques Concolé.
Pour les ARV, nous avons des ARV, mais le problème c'est les tests. Les femmes enceintes, nous le faisons parce que nous ne voulons pas que les enfants qui naissent, naissent avec le VIH. Le dépistage est ciblé maintenant. C'est là où on peut avoir le plus de cas, c'est là où on va. Pour confirmer, il faut vraiment qu'il y ait 3 tests. Si le premier est positif, le deuxième, le troisième sont positifs, on confirme que la personne est séropositive et on met la personne sous ARV. Pour les femmes enceintes, une fois que le premier test est positif, nous mettons d'abord la femme sous ARV en attendant qu'on confirme. Quand on aura le test, si on confirme qu'elle est positive, elle continue avec son traitement. Mais si elle n'est pas, on arrête les antirétroviraux, donc nous pêchons par excès pour protéger l'enfant qui est là. Les conséquences, il y a des femmes enceintes qui peuvent continuer à mettre au monde les enfants avec VIH. Deuxièmement, les personnes qui sont séro-ignorants continueront à propager la maladie. Ils n'ont pas fait les tests. Et depuis l'année passée, le gouvernement a fourni un effort. Parce que tout ce temps-là, on peut dire que plus de 97%, l'argent venait de l'extérieur. Et ça, vraiment, nous félicitons le gouvernement. Même si les partenaires se retiraient, que nous sortions de la dépendance financière, le gouvernement provincial et le gouvernement national mettent la main dans la pâte.
Ici à Kinshasa, la capitale, depuis le week-end dernier, les sinistrés des pluies qui se trouvaient dans des écoles sont relogés ailleurs. C'est le cas notamment de ceux de l'Institut Lumumba à Limete ainsi que de l'ITI Kitome Saki Senso. Certains ont été transférés au stade Tata Raphaël, d'autres au terrain municipal de Bandalungwa. Dans quelles conditions ces personnes sont-elles installées et comment se passe leur prise en charge? Kaki Akewa et Nancy Atambo nous parlent de la situation de ceux qui sont relogés à proximité de la maison communale de Bandalungwa. Suivez.
Le terrain municipal de Bandalungwa va au finish accueillir près de 4000 sinistrés. À notre passage, Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé, est venu se rendre compte de la situation de ceux qui y sont déjà. Il explique comment cela s'organise.
Les tentes ici sont encore en train d'être montées pour que nous puissions recevoir plus de 3000 personnes. Vous allez trouver un centre de santé avancé. Des cas complexes, on les réfère aux établissements de soins de santé et l'hôpital Kalemelembe pour les enfants.
Malgré les conditions difficiles, plusieurs sinistrés expriment leur soulagement de recevoir de l'aide. Toutefois, il ne manque pas de formules de plaintes.
La nourriture arrive, mais il y avait un tel désordre dans la distribution que certains ont manqué. Il a fallu que les femmes s'énervent pour qu'on arrive à la solution actuelle de la répartition par local.
Patricia Kongo affirme que les autorités sont à l'écoute. C'est ainsi que des améliorations ont été observées quant à la distribution de biens désormais confiés aux chefs des quartiers.
Il y a quand même des fraudeurs. Nous avons mis un système de détecter ces fraudeurs-là par la communauté. Nous les organisons par quartier. Ce sont des chefs des quartiers qui viennent prendre la nourriture pour aller donner à ses administrés.
Les besoins sont nombreux. C'est ainsi que certaines structures viennent en renfort, cas notamment de certaines ONG.
Actualité internationale.
Le programme alimentaire mondial PAM a déploré hier devoir interrompre en mai l'aide en Éthiopie pour 650 000 femmes et enfants souffrant de la malnutrition. Cette décision intervient en raison des coupes dans l'aide internationale alors que la situation humanitaire se détériore dans le pays.
L'invité.
Il s'appelle Christian Kunda Mutoki, professeur à la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi. En évoquant la disparition du professeur Yves Moudimbe, il souligne que ce dernier a énormément contribué à la littérature et à la philosophie. Son héritage est immense, tant dans le domaine littéraire qu'à l'université de Lubumbashi, où il a enseigné pendant de nombreuses années. Christian Kunda s'entretient avec Jean Gandou.
Professeur Christian Kunda, bonjour.
Bonjour.
Le professeur Valentin Moudimbe est décédé ce mardi aux États-Unis. Quel souvenir gardez-vous de lui?
Moudimbe est un linguiste romaniste. En tant que tel, il a produit beaucoup de gens de valeur à l'université de Lubumbashi, à l'université de Kinshasa, à l'université de Californie, en France et même en Chine. Et là, aux États-Unis, il a évolué dans un département qu'on a appelé le département des idées. C'est le département de philosophie en réalité. Quand on parle de lui aux États-Unis, on dit que c'est un philosophe. Quand vous êtes sud-autrichien, on vous dit que c'est un grand littéraire. Nous le connaissons comme linguiste au départ, mais sur le continent africain, il est traité d'historien et de sociologue. C'est pour vous dire que dans cette complexité, c'est un personnage aguerri, un personnage à 100% scientifique et académique qui a parlé de tout, mais à partir de sa posture, de ce qu'il a été, homme de lettres d'abord, et je vous rappelle que c'est l'ancien doyen de la faculté des lettres et philosophie, mais il avait des assises aussi au département des lettres classiques, aujourd'hui qu'on appelle celui de lettres et civilisation latine.
Professeur, au regard de toute cette complexité, qu'est-ce qui a fait donc sa force?
Sur le plan de l'enseignement, c'est quelqu'un qui a su transmettre la matière et qui a formé les hommes de valeur avec en tête Julien Kilanga Musingi, les grands poètes, les grands écrivains, recteur honoraire de l'Université Lubumbashi. Mais la force de Moudimbe, c'est de produire des œuvres durables, de valeur, de grande qualité, des œuvres qui sont consommées à travers le monde.
Quelles sont ces publications qui vous ont le plus marqué et qui ont contribué à sa notoriété?
Elles sont nombreuses, mais je parle, moi, de la publication qui m'a beaucoup plus marqué, c'est Entre les eaux. Un livre qui vous rappelle le classique, qui vous rappelle les langues romanes, qui vous enseigne la belle langue française et finalement qui vous rappelle la culture africaine, qui vous enseigne la culture congolaise, mais au-delà de tout, la culture mondiale.
Moudimbe était-il seulement un écrivain ou un simple penseur?
Non, pas un simple penseur. Il était tout ça. Grand écrivain, je vous rappelle que je n'ai pas une classification tout à fait, permettez-moi, la tautologie classique. Moudimbe est considéré dans certaines écoles de pensée et de littérature comme le plus grand romancier congolais. Il s'agit ici de ce qu'on appelle la littérature classique d'expression française de notre pays. Quand vous êtes sur le continent, il est cité parmi les grands romanciers. Et donc, c'est quelqu'un qui apporte sur le plan de la littérature une contribution inestimable à l'humanité, à l'Afrique et à son pays.
Peut-on le considérer comme étant un sphinx de la littérature?
C'est le cas de le dire. Les grands noms en littérature commencent par les Moudimbé et les Belisembe. Les Belisembe, c'est en poésie. Mais le roman porte le nom d'abord et avant tout de Moudimbé, même s'il y a eu d'autres contemporains de son époque. Je ne voudrais pas ici tout de suite les citer. On parle de Moudimbé. Mais Moudimbé, il est considéré comme le tout grand, le plus grand romancier.
Et quel héritage a-t-il laissé à la littérature congolaise en général et à l'université de Lubumbashi en particulier où il a évolué assez longtemps?
En ce qui concerne la littérature d'expression française, on partira de Moudimbé en ce qui concerne la narration, les œuvres narratives. L'œuvre de Moudimbé échappe au temps et à l'espace. C'est une contribution inestimable, c'est un grand héritage qui va être enseigné pendant longtemps, mais sur le plan de l'enseignement, parce qu'il a apporté aussi beaucoup, ses enseignements, je crois qu'ils vont être portés par ses disciples, qui pourraient peut-être même aussi être publiés, mais lui-même de son vivant, je crois qu'il n'a pas laissé moins de 3000 livres. Quelques années ici avant de mourir, il a légué toute sa bibliothèque à l'université de Lubumbashi. La bibliothèque est partie des États-Unis pour Lubumbashi. Et quand vous allez à ce qu'on appelle la bibliothèque du cinquantenaire, il y a tout un rayon sacré, toute une bibliothèque, on va dire, dans une grande bibliothèque Moudimbé. Consultez les livres de Moudimbé et même ceux qui n'ont pas écrit les livres, vous voyez là-dedans qu'il les a annotés. Ça veut dire qu'il a lu lui-même plus de 8000 livres qu'il a légués à l'université de Lubumbashi. Mais tous les livres, les 8000, c'est un héritage aussi. Il a envoyé ça à l'université de Lubumbashi. Les jeunes, les scientifiques, les académiciens peuvent aller consulter ce que Moudimbé a laissé comme héritage sur les plans du savoir et de la connaissance à l'université de Lubumbashi.
Professeur Christian Kundamutoki, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répond aux questions de Jean Gandou Kabungu. Ainsi prend fin ce journal. Au nom de toute l'équipe, Pele Kipela Mundu, Alain Rung, Richard Junior Kamunga, Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa et grâce à Mzati Masanzi, nous vous disons merci pour votre confiance à la Radio de la Paix.